Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Depuis quelques jours et la diffusion d'un documentaire l'accusant très clairement et très abruptement de pédophilie, les chansons de Michael Jackson ne sont plus diffusées sur certaines radios nord-américaines. L'acteur Kevin Spacey, quant à lui, a été effacé des derniers films et séries dans lesquels il apparaissait après des accusations d'agression sexuelle sur un fan et pour lesquels il est jugé actuellement. Un autre comédien vedette, Liam Neeson, ne sait pas s'il va pouvoir poursuivre sa carrière après avoir confessé avoir eu des envies de meurtre raciste après le viol d'une amie il y a plusieurs années. Peut-on purement et simplement effacer les artistes qui se sont mal conduits? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Violaine Roussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8, chercheur au CRESPA et professeur associé à l'université de Californie du Sud, auteur de Art et contestation aux États-Unis. Ça va paraître dans quelques jours, en avril 2019, aux presses universitaires de France, collection Vie des idées. Mmh. Et Anne Sweet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur à l'université Paris Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Vous êtes enseignante à l'Institut de gestion sociale, enseignante en cinéma et télévision à l'école des Ponts et Chaussées, responsable du comité scientifique de la revue Trait d'Union. Pédophilie, viol, agression ou harcèlement sexuel, homosexuel et hétérosexuel, racisme, antisémitisme, sexisme et même meurtre et en particulier féminicide, les artistes qui se sont rendus coupables non pas simplement de délits mais bel et bien de crimes au sens pénal, n'en laissent pas moins derrière eux des œuvres et parfois entendent continuer à produire dans leur domaine. Pourtant, l'idée de tolérance zéro et d'exemplarité pour mettre fin à ces comportements semble de plus en plus présente. Est-ce que c'est une tendance lourde, Violaine Roussel?
Alors, je ne sais pas si la question de l'exemplarité est vraiment la tendance que l'on voit par rapport aux artistes. C'est aussi qu'il y a un contexte, je pense, dans lequel la cause, notamment, puisque ce sont surtout les exemples que vous avez donnés, la cause du genre, la cause de la lutte contre les abus sexuels, contre les inégalités de genre, mais aussi, par exemple, les inégalités liées à l'origine ethno-raciale, sont des causes qui ont été soutenues, qui ont fait l'objet de mobilisations depuis déjà un certain temps. Ça ne date pas que de l'affaire Harvey Weinstein et ce qui s'est passé autour du mouvement MeToo, qui est un petit peu le prélude à ce dont vous venez de parler.
Le déclencheur, hein, on
peut le dire. Oui, le déclencheur hein. D'une cascade de scandales assez impressionnante. Mmh. Et je pense que ce n'aurait pas été possible sans ce contexte préalable, qui est un contexte de sensibilisation à ces questions. Et dans le cadre duquel toutes les personnes publiques ont peut-être en effet, sous l'œil vigilant de lanceurs d'alerte, éventuellement des médias, et donc ont en ce sens une obligation d'exemplarité, mais en tant que personne publique, peut-être pas nécessairement plus en tant qu'artiste.
Anne Sweet, c'est une tendance lourde, irréversible pour vous?
Je ne pense pas que c'est irréversible, mais je ne dirais pas que c'est forcément quelque chose de neuf. À l'époque, les anciens acteurs, Charlie Chaplin, etc., il y avait beaucoup de scandales, en fait. Il
oui,
y avait beaucoup
de
mauvais comportements.
Il a été accusé d'agression sexuelle sur de très jeunes filles.
Hein. Oui, de très jeunes filles. Il y avait aussi Roman Polanski, il y avait Miles Davis, apparemment. Il y avait beaucoup de stars. John Lennon, même, apparemment, était très violente avec sa femme. Mais ce qui a changé aussi, c'est cet effet des réseaux sociaux. Il y a aussi la sensibilisation, comme ma collègue a parlé, mais aussi les questions de réseaux sociaux. Tout se découvre. Rien n'est caché. Alors qu'à l'époque, par exemple, quand le mari de Jean Harlow, une star des années 30, est mort, la société de production a tout fait pour couvrir les vrais faits. Et maintenant, on ne peut rien couvrir. Les réseaux sociaux dévoilent tout. Pour du vrai ou du faux, pour du bien ou du mal, on sait tout. On sait tout sur tout le monde. Et les informations, ils se diffusent vite. Mm-hmm. Donc, c'est un autre phénomène qui, qui explique pourquoi il y a toute une cascade de scandales qui se dévoilent, parce qu'il y a une personne après l'autre. Avec At Me Too, il y a une personne qui parle, puis une autre à travers Twitter et tout.
Une caisse de résonance à laquelle il est difficile de résister. Les milieux de la musique et du cinéma sont de grandes industries, et le fait de faire disparaître du paysage de tels artistes qui sentent le soufre, ce sont des décisions qui sont artistiques, morales, politiques ou plutôt économiques pour vous, Violaine Roussel? C'est-à-dire qu'on peut plus vendre l'image de quelqu'un.
Fois, ouais. Tout ça à la fois, mais je pense que la question de savoir si on pourra continuer à travailler et si notre carrière n'est pas menacée n'est pas une question qui se pose uniquement dans le monde du cinéma. Si les enjeux commerciaux peuvent y être particulièrement importants pour ce qui est des grosses productions et aussi des gens qui vivotent dans le cinéma.
Beaucoup.
Voilà. Mais il y a aussi des enjeux très importants attachés aux films qui sont produits par les studios, par exemple. Et donc effectivement la question de savoir si on va pas perdre trop d'argent, si on va pouvoir continuer à faire son métier, si on va pas se décrédibiliser est une question qui se pose là, mais je pense qu'il se pose aussi ailleurs. On l'a vu, moi je l'ai vu dans des enquêtes précédentes, alors c'était pas sur des questions d'abus sexuels, c'était pas du tout sur des questions du même ordre, mais quand j'ai travaillé sur les mobilisations d'artistes contre la guerre en Irak, dans différents mondes de l'art, donc il y avait le monde du cinéma et d'autres mondes de l'art dans lesquels les enjeux économiques peuvent parfois être moins lourds, on voyait très bien aussi que la peur d'être décrédibilisé par l'idée qu'on avait travaillé avec quelqu'un qui était labellisé comme un activisme militant très radical faisait tout aussi peur. Donc c'est vraiment la peur de perdre sa crédibilité professionnelle et de se voir attacher une sorte de stigmate dont on n'arrivera pas à se défaire.
Ça veut dire que si on fréquente ou qu'on travaille avec quelqu'un qui a été condamné ou qui a eu un comportement sujet à polémique, on peut soi-même être stigmatisé, c'est ça, Anne Sweet?
Je dirais peut-être pas ça, je pense... D'ailleurs, ce qui est intéressant, la plupart de ces personnes qui sont accusées n'ont jamais été condamnées. Donc, c'est vraiment à travers la condamnation du public, qu'ils sont condamnés. Et je pense l'enjeu, plutôt que pour les collègues ou l'anti-collègue, est les enjeux de la production. Et les sociétés de production sont de plus en plus interactives avec le public, sont de plus en plus réactives par rapport à ce qui demande le public.
Et un marketing beaucoup plus direct, c'est ce que vous voulez dire aussi?
Pas juste direct, mais par exemple, ici, un film qui se lance et, par exemple, ou une série, et le public, ça ne leur plaît pas, ils n'aiment pas les caractères, ils n'aiment pas la façon dont c'est conçu. Tout de suite, peut-être pour la suite, ils vont changer quelque chose par rapport à la réclamation du public. Si le public réclame qu'un couple soit ensemble, pas ensemble, qu'ils n'aiment pas un personnage, ils sont assez réactifs parfois, parce que l'enjeu quand même de toute œuvre médiatique et de gagner de l'argent. Et donc, ça les intéresse beaucoup à avoir un public. Et si le public est de manière assez unanime contre quelque chose ou contre quelqu'un, c'est de cette manière qu'ils réagissent.
Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux parler dans ce cas-là de commerce que d'art, Violaine Roussel?
Les deux sont liés, en fait. Je pense qu'on aurait tort de les opposer, surtout dans ces univers comme le cinéma, la musique, dont vous avez parlé précédemment. C'est indissociable, en réalité, et la volonté de continuer à travailler, c'est à la fois une volonté de continuer à faire des choses qui peuvent... D'ailleurs, finalement, c'est pour ça que Harvey Weinstein a réussi à sévir pendant aussi longtemps. C'est qu'il offrait la possibilité à des stars, parce qu'en plus, il s'en est pris à des gens qui n'étaient pas dénués de pouvoir, à des grandes stars de cinéma, mais qui avaient l'impression d'avoir désespérément besoin de lui et de ne pas pouvoir se le mettre à dos, parce que il était là dans une position stratégique pour financer des films, mais des films avec un aspect artistique. Mmh. Pas les grands blockbusters des studios, justement. Des films qui allaient avoir parfois des prix.
Tous les films de Quentin Tarantino, par exemple.
Voilà, Pulp Fiction, Shakespeare in Love, etc. Et donc, ce désir de faire quelque chose qui est à la fois reconnu artistiquement, esthétiquement, par la profession, par le public, et en même temps, évidemment, dont on peut bien vivre si possible. Donc, il y a vraiment, je trouve, une intrication de ces deux dimensions.
Oui, Anne Sweet, vous voulez réagir à ça?
Oui, je vais rajouter, oui, peut-être sur l'affaire Weinstein. Weinstein, vous dites en français Weinstein.
On dit comme vous voulez.
D'accord.
On dit Weinstein aux États-Unis, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
aussi la raison pour laquelle c'était pas dévoiler plus vite et la peur. Il y a plusieurs personnes qui a dit le fait que d'avoir eu affaire avec lui a tué leur carrière. Les gens avaient tout simplement peur. Il avait trop de pouvoir. C'était un abus de pouvoir, tout simplement. Et en parlant de Tarantino et l'art, ce qui est difficile, par exemple, Quentin Tarantino aussi était pris dans un scandale. Il y a Uma Thurman qui a dit qu'il était vraiment méchant avec elle sur le tournage, qu'elle s'est vraiment blessée.
Il a été un réalisateur très dur, c'est ça qu'elle...
Elle s'est vraiment fait mal. Elle a eu des blessures suite aux cascades qu'elle faisait, je pense, dans Kill Bill. Mm-hmm. Et donc maintenant, même si on peut apprécier l'art du film, c'est difficile à dissocier le fait qu'on sait que l'actrice s'est fait vraiment mal, qu'elle souffrait pendant tout le tournage. Donc, ça peut être un beau film, mais l'idée du spectateur est qu'on sait que là-dedans, qu'on voit qu'elle a l'air de souffrir, elle souffre vraiment. Donc, et en tant qu'être humain, c'est difficile à apprécier l'art en même temps qu'on sait qu'il y a certaines choses qui se passaient derrière le tournage.
Est-ce que la France, et je vous parle évidemment par rapport aux États-Unis que vous connaissez toutes les deux, est-ce que la France a une spécificité dans ce domaine par rapport à ce qui se passe aux États-Unis? Je pense par exemple à la rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque qui a été contestée mais qui a eu lieu quand même. Ce n'aurait pas été possible de faire ça aux États-Unis, Violaine Roussel?
Alors, je pense effectivement qu'il y a
Roman
des différences.
Roman Polanski, qui a donc été reconnu coupable de viol sur une jeune fille dans les années 70, qui est de 13 ans, c'est
en
ça.
En 1977. Ouais. Je pense qu'il y a en effet des différences. Il faut quand même que je dise que moi, je suis pas spécialiste de la France. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et ça me permet aussi de rebondir sur ce que disait Anne-Suite il y a quelques minutes, c'est sur la différence entre le passé et aujourd'hui, qui est liée aussi à cette différence culturelle, on pourrait dire, entre le cas des États-Unis et le cas de la France. Parce que quand on pense au cas de Roman Polanski ou à d'autres cas, par exemple, je pense aux épisodes qui avaient concerné Mel Gibson et les propos antisémites, racistes, etc. Aux sortes de stratégies qui étaient déployées à ce moment-là, qui consistaient à dire « je m'excuse sincèrement ». Et en gros, ça pouvait marcher, ça pouvait suffire. Et d'ailleurs, dans la cascade de scandales, Weinstein et Me Too, on voit par exemple Kevin Spacey, des gens comme ça qui au début commencent par s'excuser.
C'est une ancienne stratégie.
Kevin Spacey dit « Ah, je me souviens pas trop, mais si c'est possible, je m'excuse ». Eh ben ça, c'est la vieille stratégie en quelque sorte.
Ça marche plus.
Non. Ben non, vous voyez bien, c'est pire que tout. Parce que c'est une manière de reconnaître. Et donc, ça, c'est quand même un basculement. Et en France, pour répondre plus directement à votre question, il y a eu cette lettre, c'était, je crois, tout début 2018, en janvier 2018, signée par une centaine de personnes, de femmes, et notamment menée par Catherine Deneuve, comme porte-parole, disant, mais il faudrait qu'on donne quand même qu'on relativise d'une certaine manière, qu'on donne un droit à importuner.
La liberté d'importuner,
voilà,
c'est comme ça.
Et donc, pour essayer de déplacer un petit peu sur un plan qu'on pourrait juger plus français. Mais en réalité, on l'a vu quand même aussi, il y a eu des réactions très fortes à cette lettre. Donc, cette opposition culturelle, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en France aussi, il y a ce mouvement de fond dont je parlais au départ, et des mobilisations dans différents univers, militants, mais aussi de chercheurs, de gens qui ont commencé à réfléchir à ces questions. Et il y a eu un tournant aussi en France, je pense.
Ensuite, le fossé culturel entre les États-Unis et la France n'est plus aussi important qu'avant. Il a tendance à se résorber un petit peu.
C'est compliqué, mais je dirais que même on a des cas en France où les gens se sont activés, se sont motivés pour dénoncer quelqu'un. On peut parler notamment de Bertrand Cantat, oui. le chanteur de Noir Désir. Oui. Et lorsqu'il est célèbre pour sa carrière, il y avait des manifestations, il a dû annuler des concerts. Oui. Il y avait une réaction publique très forte au fait qu'il a tué sa copine. En ce qui concerne Roman Polanski, vous parliez tout à l'heure de la question d'art. Et c'est vrai que certaines de ses œuvres, par exemple Rosemary's Baby, c'est vraiment un modèle sur lequel beaucoup d'autres films d'horreur sont basés. Donc, d'une certaine manière, de l'effacer de l'histoire, de plus le regarder, de tout cas, dans un contexte universitaire et scolaire, ça serait peut-être d'une certaine manière dommage parce que c'est-à-dire c'est la source en fait d'un certain style de film qui perdure en fait. Et donc de cette perspective-là, je pense de perspective intellectuelle, il est toujours très intéressant.
Est-ce que c'est plus facile, et je pose la question de manière un peu provocante volontairement, Est-ce que c'est plus facile d'être mort pour un artiste aujourd'hui? Je pense à Louis Ferdinand Céline, par exemple, ou au Caravage même. Oui. Le Caravage qui a été condamné par contumace pour meurtre, pour un duel qui s'est terminé par la mort de son adversaire, qui a dû quitter Rome. Et personne aujourd'hui ne pense à mettre un coup de rouleau sur ses peintures.
Hein, c'est plus facile d'être mort, mais ce qui est sûr, c'est que la question se pose différemment quand il s'agit des œuvres passées. Que quand il s'agit de savoir est-ce qu'on doit encore travailler avec cette personne aujourd'hui. Effectivement, ben, c'est aussi une manière de réaliser que c'est pas quelque chose de radicalement nouveau, de penser par exemple à Céline, qui est aussi quelque chose qui me venait à l'esprit quand j'entendais ma collègue parler de Roman Polanski. Et c'est aussi la question de est-ce que tout un monde professionnel peut se déjuger quand, en fait, ça fait des dizaines d'années qu'une personne a été, à travers différents prix, des Oscars, par exemple pour Polanski, vraiment, une personne a été complètement consacrée et a effectivement essaimé, influencé. Moi, en tant que sociologue, il m'appartient pas de dire ce qu'il faut faire à cet égard, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tension entre le fait que dans le présent, il y a quand même des effets sur le fait qu'il devient très difficile de s'associer à cette personne, mais par rapport au passé, les œuvres, en tout cas, surtout quand elles sont...
Il y a quand même une œuvre derrière.
Surtout quand l'œuvre est relativement facile à dissocier de l'acte incriminé. C'est plus compliqué quand il y a des propos dans l'œuvre qui eux-mêmes font controverse.
Oui. Est-ce que, par exemple, Anne Sweet, est-ce qu'on est davantage gêné par ceux qui mettent en avant leur vie personnelle à travers eux-mêmes ou à travers leurs personnages, qu'ils mettent en scène de manière assez transparente? Et bon, je vais le dire clairement, Woody Allen, par exemple.
Ah oui. Oui, il y a tout un film qui s'appelle Manhattan où son personnage est amoureux d'une jeune fille, ce qui est assez difficile maintenant pour le public à regarder. Et je pense, en ce qui concerne peut-être le présent, les gens ont envie de sanctionner les gens qui sont le public, on va dire, on a envie de sanctionner ceux qui sont toujours vivants. Et ça, c'est peut-être se distingue du passé. Par contre, lorsqu'on essaie de regarder des films du passé, on les juge par rapport à notre présent, pour ce qu'on vit maintenant. Donc, il y a beaucoup de films, par exemple, It Happened One Night, l'acteur lui donne des fessées, à la femme. On doit dire que c'est romantique. Et donc, il y a toute une question de mœurs qui ont changé et c'est très difficile à dissocier nos murs actuels avec l'art du passé. Mais il faut dire à l'époque, des grands auteurs, de grands écrivains, c'était moins important. Par exemple, apparemment, Rousseau, vous savez, déposait tous ses enfants à l'orphelinat. Et on l'étudie toujours, on apprécie toujours ses idées.
C'est même traité sur l'éducation des enfants, ça. Notamment.
Non, c'est vrai qu'on a tendance à appliquer les normes du présent pour juger du passé. Et ça, c'est extrêmement compliqué. En fait, regarder le passé, ça nous apprend aussi, par exemple, que l'âge auquel on est adulte, l'âge auquel on se marie, l'âge auquel... l'existence même de l'adolescence, qui est une chose nouvelle, qui n'a pas toujours existé, tout ça, si on l'applique rétrospectivement, on ne peut pas comprendre ce que, dans le passé, les artistes ou d'autres ont essayé de montrer.
En quelques mots, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, les artistes, est-ce qu'ils doivent être exemplaires et se comporter comme des juristes, ou est-ce qu'ils doivent être nécessairement en marge, Anne Sweet?
Ça, c'est très compliqué, parce que c'est vrai qu'un artiste, quelqu'un qui est très, très intelligent, il réfléchit autrement, peut-être il agit autrement. Mais je pense quand même ils doivent être tenus à la loi. Ils doivent pas avoir des règles spéciaux pour une catégorie de personnes. Mais le problème aujourd'hui est que le public considère les personnalités des stars en tant que héros. Ils les mettent dans une autre catégorie. Mmh. Et donc, ils vivent dans un monde de part. Et je pense parfois, ils se croient tout permis.
Mmh. Oui. Jolaine Roussel, la personnalité de l'artiste. Alors, en quelques secondes, il nous reste très peu de temps.
Peut-être aussi, ce que j'ai pu voir à travers des enquêtes et des entretiens, c'est aussi des artistes qui avaient une conscience quand même aiguë à travers le fait qu'ils étaient des personnalités publiques, de la nécessité d'agir d'une manière plus exemplaire et inspirante.
Merci Violaine Roussel, merci Anne Sweet d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.